Bonjour, ici Marc, bienvenue au 59e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la deuxième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Je pense que si on veut enfin arriver à la fin des guerres, de l'esclavage qui, comme le montre ce livre, est plus étendu que jamais, la fin de la pauvreté, de la pollution, et enfin arriver à la paix dans le monde, et la prospérité, et le bonheur pour tous, il est absolument nécessaire de se libérer de cette terrible superstition. Oui, la plupart d'entre nous sommes esclaves, et on ne s'en aperçoit même pas. C'est pour ça qu'on gagne à peine de quoi vivre, qu'on a si peu de temps libre, que les prix augmentent tant, etc. Et ceux qui prétendent diriger me semblent tout autant bourrés de traumatismes émotionnels et ne sont pas heureux non plus. Donc, l'organisation actuelle de la société n'est bonne pour personne. Alors pour nous et pour les générations à venir, réveillons-nous et comprenons comment faire pour vivre une vie tellement plus belle. J'ai récemment entendu Larkin Rose dire quelque chose de très encourageant, qui est que par rapport à il y a quelques décennies, il n'y a plus qu'une petite partie de la population qui considère encore les hommes politiques comme des gens respectables. On a gardé l'habitude de leur accorder une certaine légitimité, mais consciemment, on n'est plus surpris comme l'étaient nos grands-parents lorsqu'il est révélé qu'un tel a détourné de l'argent ou que tel autre a commis des abus sexuels, etc. Qu'un homme politique mente, c'est vu comme normal, alors que ça ne l'était pas il n'y a pas si longtemps. Pareil pour la police, qui n'est généralement plus vue comme étant forcément du côté de la vraie justice. Même si on accepte encore par habitude lorsqu'on nous dit « c'est pour le bien de tous, c'est pour votre sécurité », aujourd'hui il ne reste plus grand monde pour sincèrement croire ça. Il est clair pour la plupart d'entre nous que c'est pour nous prendre de l'argent. Larkin Rose, qui est aux États-Unis, dit que les attitudes ont changé. On se comporte encore comme le faisaient nos grands-parents, mais on n'y croit plus. Et en l'entendant, je m'aperçois que je suis d'accord. Qui plus est, je suis en train de lire un livre des années 1920 de Pierre Janet, qui a été un des premiers à chercher méthodiquement à comprendre les phénomènes psychologiques. Et ça m'a étonné de voir comment il parlait des sauvages et des primitifs, comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Là aussi, ça montre que les attitudes ont changé depuis cette époque où on ne sortait pas sans porter un chapeau, et le colonialisme était justifié par ce genre de croyances. Donc, ça renforce mon espoir qu'une société basée sur le consentement mutuel arrive, et j'espère que vous aussi vous vous réjouissez de ça. Voici la suite de « La superstition la plus dangereuse ». Autorité égale violence immorale. Presque tout le monde est d'accord pour dire que la force physique est parfois justifiée et parfois non. Bien qu'il existe une zone grise importante et discutable, il est généralement admis que la force agressive, l'initiation de la violence à l'encontre d'une autre personne, est injustifiée et immorale. Cela inclut le vol, l'agression et le meurtre, ainsi que des formes d'agression plus indirectes, telles que le vandalisme et la fraude. En revanche, le recours à la force pour défendre les innocents est largement considéré comme justifié et moral, voire noble. La légitimité d'une telle force est déterminée par la situation dans laquelle elle est utilisée, et non par la personne qui l'utilise. Pour simplifier, les types de force que n'importe qui a le droit d'utiliser peuvent être qualifiés de « bonne force » et tous les actes de force que les gens normaux n'ont pas le droit de commettre peuvent être qualifiés de « mauvaise force ». Le lecteur peut appliquer ses propres normes et la logique ici s'appliquera toujours. Il va de soi que si tout le monde a le droit d'utiliser la « bonne force » justifiée par nature et que la loi autorise les agents du gouvernement à également utiliser la force dans d'autres situations, alors la loi est une tentative de légitimer la mauvaise force. En bref, l'autorité est la permission de commettre le mal, de faire des choses qui seraient reconnues comme immorales et injustifiées si quelqu'un d'autre les faisait. De toute évidence, ni l'électeur enthousiaste qui affiche fièrement une pancarte de campagne dans son jardin, ni le citoyen bien intentionné qui se présente aux élections ne comprennent ce fait. S'il le comprenait, il comprendrait que la démocratie n'est rien d'autre qu'une violence immorale approuvée par la majorité et qu'elle ne peut en aucun cas réparer la société ou être un outil de liberté ou de justice. Malgré la mythologie qui prétend que le vote d'une personne est sa voix et que le droit de vote est ce qui rend les gens libres, la vérité est que tout ce que fait la démocratie est de légitimer l'agression et la violence injustifiée. Si chacun a le droit d'utiliser une force intrinsèquement juste et que les agents du gouvernement sont autorisés à utiliser la force dans d'autres situations également, alors, par sa nature même, ce que le gouvernement ajoute à la société est une violence immorale. Le problème est que l'on enseigne aux gens que lorsque la violence a été rendue légale et qu'elle est commise par l'autorité, elle passe d'une violence immorale à une application de la loi vertueuse. Le principe fondamental sur lequel repose tout gouvernement est l'idée que ce qui serait moralement mauvais pour une personne moyenne peut être moralement bon lorsque cela est fait par des agents de l'autorité. Ce qui implique que les normes de comportement moral qui s'appliquent aux êtres humains ne s'appliquent pas aux agents du gouvernement. Ce qui, une fois encore, laisse entendre que la chose appelée gouvernement est surhumaine. La force intrinsèquement juste, qui, de l'avis général, se limite à la force défensive, n'a besoin d'aucune loi ni d'aucune autorité spéciale pour être valide. La seule chose dont la loi et le gouvernement ont besoin, c'est de tenter de légitimer une force immorale. Et c'est exactement ce que le gouvernement ajoute, et la seule chose qu'il ajoute à la société, plus de violence intrinsèquement injuste. Quiconque comprend cette simple vérité ne prétendra jamais que le gouvernement est essentiel à la civilisation humaine. L'idée que la loi créée par l'homme peut annuler les règles habituelles du comportement civilisé a des ramifications assez terrifiantes. Si le gouvernement n'est pas limité par la moralité humaine de base, ce que le concept même d'autorité implique, selon quelle norme ou quel principe l'action du gouvernement serait-elle limitée? Si une taxation de 30% est valable, pourquoi une taxation de 100% ne le serait-elle pas? Si le vol légal est légitime et juste, pourquoi la torture et le meurtre légalisés ne pourraient-ils pas être légitimes et justes? Si un besoin collectif exige de la société qu'elle se dote d'une institution bénéficiant d'une exemption de moralité, pourquoi y aura-t-il des limites à ce qu'elle peut faire? Si l'extermination d'une ethnie entière, l'interdiction d'une religion ou l'asservissement forcé de millions de personnes sont jugés nécessaires pour le bien commun, selon quelles normes morales pourrait-on se plaindre une fois que l'on a accepté les prémices de l'autorité? Toute croyance en un gouvernement repose sur l'idée que le bien commun justifie l'initiation légale de la violence contre des innocents à un degré ou à un autre. Et une fois cette prémisse acceptée, il n'y a pas de norme morale objective pour limiter le comportement du gouvernement. L'histoire ne le montre que trop clairement. Presque tout le monde accepte le mythe selon lequel les êtres humains ne sont pas assez dignes de confiance, pas assez moraux, pas assez sages pour vivre en paix sans un gouvernement pour les garder dans le droit chemin. Même ceux qui reconnaissent qu'il n'y aurait pas de dirigeants dans une société idéale estiment souvent que les êtres humains ne sont pas prêts pour une telle société. Ces sentiments reposent sur une incompréhension fondamentale de ce qu'est l'autorité et de ce qu'elle apporte à la société. L'idée que le gouvernement est un mal nécessaire, comme l'a décrit Patrick Henry, implique que l'existence du gouvernement impose des limites à la nature violente et agressive des êtres humains, alors qu'en réalité, elle fait exactement le contraire. La croyance en l'autorité légitime et légalise l'agression. Indépendamment de la bêtise ou de la sagesse des êtres humains, de leur malveillance ou de leur vertu, dire que les êtres humains ne sont pas prêts pour une société sans État, ou qu'on ne peut pas leur faire confiance pour exister sans une autorité devant laquelle ils s'inclinent, revient à dire qu'une civilisation pacifique ne peut exister que s'il existe une énorme et puissante machine qui introduit une énorme quantité de violence immorale dans la société. Bien sûr, les étatistes ne reconnaissent pas cette violence comme immorale, car pour eux, ce ne sont pas de simples mortels qui commettent cette violence, mais des représentants de cette divinité qu'ils appellent gouvernement, et les divinités ont le droit de faire des choses que les mortels ne peuvent pas faire. Lorsqu'elle est décrite en termes précis et concrets, cette croyance quasi universelle, selon laquelle il est nécessaire d'introduire une violence immorale dans la société afin d'empêcher les gens de commettre des violences immorales, apparaît comme le mythe manifestement absurde qu'elle est. Mais tous ceux qui croient au mythe du gouvernement sont obligés de croire exactement cela. Ils ne le croient pas suite à une réflexion rationnelle et logique. Ils l'acceptent comme un article de foi parce qu'il fait partie de la doctrine incontestable de l'Église du gouvernement. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la deuxième partie de « La superstition la plus dangereuse », d'où vient le droit de gouverner ?